بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc on va continuer ce livre qui s'appelle Al-Asha'ira laysu min ahli sunnati wa jama'a. Al-Asha'ira, entre guillemets en français les Ash'arites, ne sont pas de ahli sunnah wa jama'a. Du Cheikh Falah ibn Ismail Mundaka, hafizahullah, on avait lu la première partie, ou les 12 premières pages, dans l'ancien séminaire, c'est-à-dire le dernier séminaire qu'on avait fait. Donc là je profite de ce séminaire en fait, pour finir le livre ce matin, inshallah ta'ala. Donc je voulais juste savoir si vous pouvez lever la main ceux qui étaient là au premier cours, ou qui ont écouté le premier cours. C'est tout? D'accord. Donc je vous répète alors à ce moment-là ce qu'on avait fait, on parlait de Al-Asha'ira. Donc ce livre on le lit comme un conseil, c'est une nasiha qu'on fait pour les musulmans en lisant ce livre. C'est pour les conseiller et les mettre en garde contre ce dogme qui est le dogme Ash'ari. Donc on lisait ce livre, donc dans le titre il est très très expressif, les Ash'ari ne sont pas de Ahl Sunnah. Donc je suis un peu déçu que la plupart d'entre vous n'étaient pas là, ça m'étonne un peu, parce que je vais devoir tout réexpliquer. Donc vous réécouterez le premier cours, il est sur internet. Donc on avait vu un peu qui était l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. Donc qui était un imam qui était né à la fin du 3e siècle de l'Égypte, un grand savant qui est passé par trois étapes différentes dans sa vie. La première étape c'est Al-I'tizal, c'est-à-dire qu'il était Mu'tazili. Donc je ne répète pas qui sont les Mu'tazila, on va essayer d'avancer pour finir le cours. Qui était Mu'tazili jusqu'à l'âge de 40 ans, où ensuite il a changé d'aqida, il a changé de voie sous l'influence d'un certain Al-Kullabi. Donc il est passé à la croyance de ce qu'on appelle Al-Mutakallimi, Ahlul Kalam, les gens de la spéculation, ou on peut dire aussi les philosophes. Mais en vérité, ce ne sont pas les philosophes. Il y a une différence entre eux et les philosophes. Mais juste pour qu'on comprenne, plus ou moins, ce sont des philosophes qui ont basé leur aqida sur un mélange entre ce qu'il y a dans le Coran et l'enseignement d'Aristote. Donc il est passé par cette étape et à la fin de sa vie, il a encore changé de voie pour revenir à la voie des salafis. Al-aqida salafiyya, c'est-à-dire l'aqida, la croyance telle que elle était connue à l'époque des sahaba radiallahu anhum et des tabi'i, et qui était la croyance des imams comme Abu Hanifa, l'imam Malik, al-Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah ta'ala. Et il a surtout parlé dans ses livres qu'il a écrit à la fin, comme Maqalat al-Islamiyyin, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, en disant clairement qu'il finissait sur la même croyance que l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc le livre consiste à expliquer pourquoi Al-Asha'ira, quand ils se disent de Ahl Sunnah wa Jama'a, mentent. Et pourquoi cette parole est fausse, et pourquoi le fait qu'il s'assimile à Ahl Sunnati wa Jama'a est faux. Donc on ne va pas tout répéter comme je vous ai dit. C'est vrai que ceux qui n'étaient pas là, ils ont besoin de beaucoup de points pour comprendre, mais c'est pas grave. Au pire, vous écoutez. Si vous ne comprenez pas tout, le premier cours il est sur internet. Donc je vais reprendre, on ne va pas reprendre exactement où on s'est arrêté, sinon on ne va pas comprendre. On va reprendre un petit peu en arrière. Donc le shir dit, hafizahallahu ta'ala, وكيف يزعمون بلا حياء أنهم أهل السنة والجماعة وهم ما زالوا يقررون أن مذاهب الأمة في الاعتقاد على ضربين مذهب السلف ومذهب الخلف. Donc il dit comment Al-Asha'ira peuvent prétendre sans pudeur être eux-mêmes أهل السنة والجماعة, c'est-à-dire les adeptes de la sunna et du groupe et de l'unanimité, alors qu'ils affirment que la croyance de la communauté musulmane est de deux sortes. La voie des salafs et la voie des khalafs. Ça, c'est qui le dit? Vous dormez déjà? Al-Asha'ira. Al-Asha'ira disent que la croyance de la communauté musulmane est composée de deux chemins. Déjà, cette parole, elle est étonnante. Elle est composée de deux chemins. Madhhabu salaf ou madhhabu khalaf. La voie des salaf, la voie des anciens, et la voie des khalaf, c'est-à-dire la voie de ceux qui sont venus après. Donc pour eux, il y a deux croyances. Wa salaf, donc on va expliquer qu'est-ce que veut dire as-salaf. Wa salaf hum as-sahaba radiyallahu anhum. Wa hum al-jama'a kama ja'a fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an mashhur fi iftiraq al-ummah 'indama qala kulluha fi an-nar illa wahida qila man hum ya rasul Allah qala al-jama'a wa fi riwayatin qala hum man kana 'ala mithli ma ana 'alayhi al-yawma wa ashabi. Donc le mot as-salaf désigne as-sahaba, désigne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont également al-jama'a. Même le mot al-jama'a désigne aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans un hadith bien connu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division qui allait se produire dans sa communauté, et il a parlé de 73 groupes dont tous iraient au feu sauf un, et il a dit à propos de ce groupe qui n'irait pas au feu, c'est al-jama'a. Il les a appelés le groupe. Et dans une autre version, il a dit, c'est ceux qui sont sur ma voie ainsi que celle de mes compagnons. Man kana 'ala mithli ma ana 'alayhi al-yawma wa ashabi, c'est-à-dire ceux qui sont sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Donc on en comprend que al-jama'a c'est as-sahaba, puisque dans une version il a répondu al-jama'a, dans une autre version il a répondu par sa voix et celle des sahaba radhiyallahu anhu. Wal-jama'atu al-haqq wal-haqqu wal-isabatu wan-najatu fi dinillahi wa ma kana 'alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam was-sahaba. Il dit le cheikh al-jama'a, c'est le groupe, c'est la vérité. Et la vérité, la réussite dans la religion d'Allah, elle est dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme message. Elle est dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc c'est ça as-sunna wal-jama'a. Fas-sunna ma thabata 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wahyan wal-jama'a as-sahaba fi fahmihi wa manhajihi fi taqrir masa'il al-i'tiqad mimma ja'a fi al-kitab wa as-sunnah. Donc as-sunna, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation. C'est-à-dire en gros, c'est la religion et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est as-sunna. Et al-jama'a, ce sont les sahaba dans leur compréhension de la religion et la voie qu'ils ont empruntée dans le fait d'établir et d'affirmer et de croire à al-aqida, c'est-à-dire dans les différentes questions de al-aqida, de la croyance. Donc as-sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-jama'a, c'est le groupe des sahaba radiallahu anhum dans leur façon de pratiquer la religion, de la comprendre et la voie qu'ils ont empruntée. Donc pourquoi le cheikh explique ici, il réexplique qu'est-ce que veut dire ahl-sunna wal-jama'a. C'est parce que le livre, comme je vous ai dit, consiste à dire, à renvoyer cette prétention des Asha'ira quand ils disent qu'ils sont Ahl-Sunnah wa Jama'a, ou qu'ils sont parmi Ahl-Sunnah wa Jama'a. Une fois qu'on a compris ce que veut dire Ahl-Sunnah wa Jama'a, on va comprendre qu'il n'est pas possible que l'Asha'ira fasse partie de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Et ça, on le comprend de leurs paroles à eux, comme on va le voir. Wa tatalakhasu tariqatuhum fi taqdim al-naql taqdiman mutlaqan وعدم التفريق بين النصوص الشرعية فالقرآن والسنة والمتواتر والآحاد يفيد العلم ويوجب العمل والتصديق على السواء ثم إجراء جميع النصوص على الظاهر والحقيقة إلا المجاز إلا ما أوجبه الدليل النقلي لا العقلي. Il dit leur voix, donc la voix des sahaba رضي الله عنهم, la voix des salaf, se résume à mettre en priorité les textes vis-à-vis de la raison. Donc ça fait partie des bases de Ahl-Sunnah. Taqdim al-naql 'ala al-aql. C'est-à-dire faire passer les textes du Coran et des hadiths avant la raison humaine. Donc ce que la raison peut comprendre dans les textes, elle le comprend. Ce qu'elle ne peut pas comprendre, elle doit s'y soumettre. Alors qu'on va voir que la voie des Asha'ira, c'est de faire passer l'esprit humain avant la révélation. Et aussi, le deuxième point, c'est de ne pas faire de différence entre les textes de la religion. C'est-à-dire que tous les textes authentiques de la religion sont acceptés. Donc le Coran, le hadith, le sunna, et au sein du hadith, que le hadith soit mutawatir ou ahad, donc on a expliqué ce que c'est dans le premier cours, tout ça c'est accepté tant qu'il est authentique. Mutawatir, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je ne vais pas donner une explication vraiment, entre guillemets, scientifique. En gros, mutawatir, un hadith mutawatir, c'est un hadith qui est rapporté par un tel nombre de rapporteurs à chaque étape de sa chaîne de transmission qu'il est impossible qu'il ait été inventé. On appelle ça mutawatir. Et l'inverse de mutawatir, c'est hadith al-ahad. Les hadiths des ahad. Ahad, c'est le pluriel de ahad. Un. Ahad, c'est des individus seuls, entre guillemets. C'est-à-dire un hadith qui est rapporté, par exemple, par un sahabi. Et de ce sahabi, l'a rapporté deux parmi les tabi'in. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, à chaque étape de sa chaîne de transmission, il n'y a pas un grand nombre. Et ça, c'est la majorité des hadiths. Mais est-ce que le fait de faire une différence entre mutawatir et ahad implique quelque chose au niveau de l'authentification des hadiths? Non, tout simplement pour la bonne raison que cette façon de diviser les hadiths entre mutawatir et ahad n'était pas utilisée par les anciens de cette communauté. C'est quelque chose qui a été mis en place, entre guillemets, puis utilisé par la suite par al-khalaf, c'est-à-dire par ceux qui sont venus après, et surtout par ahlul kalam, c'est-à-dire les spéculateurs. Spéculateurs, c'est-à-dire en gros, les philosophes. Je dis philosophe pour que vous compreniez. Mais si on étudie l'aqidah, philosophe et ahlul kalam, c'est deux choses différentes. Je dis philosophe juste pour qu'on comprenne, parce que des fois, quand je dis les gens de la spéculation, ça nous parle pas. Ahlul kalam. Donc cette façon de différencier entre mutawatir et ahad n'a pas d'incidence sur l'authenticité des hadiths, puisque les salaf, c'est-à-dire les gens du hadith, que ce soit à l'époque des tabi'in, ou l'époque suivante, ou l'époque de l'imam al-Shafi'i, ou de l'imam Ahmed, ou de l'imam al-Bukhari, différencier les hadiths tout simplement entre sahih et da'if, authentique et rejeté. Et dans les hadiths authentiques, la plupart sont des hadiths ahad. Vous avez compris? Des hadiths qui ne sont pas rapportés par un grand nombre de rapporteurs. Donc, ça n'a pas d'incidence. Alors que les khalaf, donc les gens de la spéculation, eux, font une différence entre le mutawatir et l'ahad. En disant, le mutawatir est accepté quand on parle de la croyance. Et quand on parle du fiqh. Alors que l'ahad, les hadiths l'ahad, ceux-là sont acceptés dans le fiqh, mais pas dans la croyance. Donc ils ont différencié entre les hadiths d'une différenciation qui n'existait pas avant eux. Cette différenciation en elle-même est une bid'a. C'est quelque chose de nouveau. Que ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Malik, ni al-Shafi'i, ni Ahmed n'ont appliqué, ni établi. Donc ça c'est pour qu'on comprenne que la voie des salafs, c'est de mettre au-dessus de tout le Coran et le hadith. Et aussi, de ne pas faire de différence entre les textes religieux. Tous les textes religieux du Coran et du Hadith, s'il est authentique, sont au même niveau pour dans la religion. C'est-à-dire que ces textes, comme il a dit ici, tufidul ilm. Tufidul ilm, c'est-à-dire que ces textes, on en bénéficie un savoir et une certitude à propos d'Allah, etc. Et comme, de la même façon que ces textes, tufidul amal, c'est-à-dire te pousse à agir. Qu'est-ce que ça veut dire ces lexiques-là? Tufidul ilm, tufidul amal. Ça veut dire, comme on vient de dire, que chez les gens de la spéculation, les hadiths peuvent impliquer l'action, c'est-à-dire que les hadiths, on les comprend, on doit les appliquer, lorsqu'ils concernent as-salat, as-zakat, etc. Mais ne va pas impliquer al-ilm. Et donc, ne doivent pas être acceptés et ni être une preuve et un argument dans le domaine de la croyance. Donc ça, comme on l'a dit, cette différenciation, elle n'existe pas à la base. Chez les salafs, chez Ahl Sunnah wa Jama'a, le hadith, s'il est authentique, il est un argument autant dans la croyance que dans le comportement, que dans le commerce, que dans la salat, etc. De ce point de vue, il n'y a pas de différence. Le hadith, il a force d'argumentation à partir du moment où il est authentique. On dit bien à partir du moment où il est authentique, dans tous les domaines de la religion. Et la troisième chose, il a dit: ثم إجراء جميع النصوص على الظاهر والحقيقة l'al-majaz. La troisième chose, c'est de comprendre tous les textes religieux du Coran et du Hadith à al-zahir. Qu'est-ce que ça veut dire al-zahir? Al-zahir, ça veut dire l'apparent, le côté apparent. Mais ce que veut dire al-zahir, c'est-à-dire la signification qui vient tout de suite à l'esprit quand on lit un texte. Ça veut dire que ce texte pourrait avoir une autre signification. Mais pour avoir cette autre signification, il faudrait le détourner ou l'interpréter. Donc, la base chez Ahl Sunna, autant dans l'aqida que dans le fiqh, que dans tous les domaines de la religion, c'est de comprendre les textes du Coran et les textes du Hadith tels qu'ils sont, et de les prendre tels qu'ils sont, avec leur sens qui vient à l'esprit et qui apparaît, selon bien sûr le sens de la langue arabe, quand on les lit. Voilà la croyance d'Ahl Sunna. Donc c'est mettre les textes religieux au-dessus de tout, de ne pas différencier entre les textes, et de prendre les textes tels qu'ils sont, sans les détourner, sans prétendre al-majaz. Al-majaz, c'est-à-dire la métaphore. Donc on ne prétend pas qu'il y a de métaphore, comme le font al-khalaf, qui disent qu'en fait tous les textes, ou beaucoup des textes, on va dire plutôt, qui parlent des qualités d'Allah sont une métaphore. Et ce n'est pas ça qui est voulu, c'est autre chose. Quelque chose que, dans lequel ils n'ont pas été précédés, ça va venir par la suite. وأما مذهب الخلف وهم في الحقيقة خلوف تفرقوا واضطربوا بسبب بعدهم عن نور الوحي وقدموا العقل وفرقوا بين النصوص قبولا وردا بمقتضى ما تمليه عليهم عقولهم. Il dit alors que les khalaf, donc il a parlé ici de al-salaf, quelle était leur voie. Maintenant il montre quelle est la voie des khalaf. Al-khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après. On peut aussi les appeler khalfun, comme c'est cité dans un verset du Coran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Donc, Al-Khalaf, il dit en vérité, ils sont khulouf. Ça veut dire, ils sont pas seulement Al-Khalaf. Ils sont khulouf, ils sont très nombreux. C'est beaucoup de groupes différents qui se sont contredits les uns les autres et qui se sont divisés parce qu'ils sont loin de la lumière de la révélation. Donc, la source dans cette religion, c'est Al-Wahi, le Coran et le Hadith. Plus on s'écarte du Coran et du Hadith, plus on va se diviser. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, qui est le Coran. Donc plus on s'écarte du Coran, et aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va se contredire et plus on va se diviser. Donc il dit cela, ils ont mis en avant al-aql. Donc chez al-salaf, on a تَقْدِمُ النَّقْلَ عَلَى الْعَقْلِ. Et chez les khalaf, c'est le contraire. On met la raison avant les textes de la religion, chez les khalaf. Et aussi, ils séparent les textes. C'est-à-dire, ils ne jugent pas les textes de la même façon, dans la façon de les accepter et de les renvoyer. Mais pour accepter ou renvoyer les textes, ils utilisent des règles qui viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que leurs esprits leur ont dicté. Et non pas les règles qui étaient connues chez ceux qui les ont précédés. ثم عاثوا فسادا في النصوص باسم التأويل الذي هو التحريف لأنهم يخرجونها عن مضامينها وعن حقيقتها بقواعد عقلية وأدلة منطقية استحسنوها وزعموا أنها هي القواطع الواجب اتباعها. Ensuite, ils ont commis du désordre vis-à-vis des textes religieux en appelant ça ta'wil. Ils prétendent faire le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation. Mais en vérité, ce qu'ils font, c'est pas ta'wil, c'est tahrif. C'est changer les textes, et c'est l'altération. Puisqu'ils sortent, ils détournent les textes de leur réelle signification, et du sens apparent qu'ils expriment. Ils détournent les textes de ce sens, et de leur signification, en utilisant pour cela des règles. Adilla wa qawa'id aqliya. C'est-à-dire des règles tirées de la raison, en disant que ces règles, donc bien sûr ces règles, elles ne sont pas tirées du Coran et de la Sunna, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces règles, leur vraie source, c'est la philosophie d'Aristote. Et c'est aussi, donc les paroles et les débats de Ahlul Kalam. Donc eux-mêmes, sans preuve descendant d'Allah Azza wa Jal, ont établi des règles. Eux-mêmes. Qu'elles soient en conformité ou pas avec le Coran et la Sunna. Ce sont des règles, entre guillemets, aqliya, c'est-à-dire intellectuelles, des règles philosophiques qu'eux-mêmes ont établies et qui ont leur source en réalité, comme je vous ai dit, dans la philosophie d'Aristote. Donc ils ont pris ces règles-là et ils ont dit ces règles-là, ce sont al-qawati'a. Al-qawati'a, c'est-à-dire ce sont les preuves déterminantes, ce sont les preuves indiscutables. Donc imaginez-vous, eux-mêmes mettent des règles en place qui ne sont pas tirées de la religion et ils disent que ces règles sont des règles indiscutables. Et donc ils vont soumettre les textes du Coran et du Hadith à ces règles. Donc ils soumettent ce qu'Allah Azza wa Jalla a descendu et la révélation d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des règles que eux-mêmes ont établies et qui ont leur source dans les paroles des Grecs. Ajib. Voilà leur madhab. Voilà leur. Et c'est pour ce madhab et pour cette façon de fonctionner qu'ils font al-tahrif, que eux appellent ta'wil. Donc ils prennent les textes et en se basant sur ces règles qu'ils ont établies, eh ben ils les détournent de leur sens. Et ils disent en faisant ça, on fait le ta'wil, c'est-à-dire on leur donne le tafsir, l'interprétation. Alors qu'en vérité, ce n'est que du tahrif. En vérité, c'est de l'altération.
وَأَمَّا نُصُوصُ الْوَحِي فَمَدَارُهَا عَلَى الظَّنِّ وَالتَّخْرِيصِ وَتَدُورُ بَيْنَ ظَنِّيَّةِ الثُّبُوتِ فَتُرَدْ وَيُقَدَّمُ الْمَعْقُولُ عَلَيْهَا وَبَيْنَ ظَنِّيَّةِ الدَّلَالَةِ فَيُحَرِّفُونَهَا عَلَى عَنْ مَوَاضِعِهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَاتِ وَالْخَيَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ.
Il dit pour eux, donc ça c'est la situation des règles intellectuelles qu'ils ont mis en place. Pour eux, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et c'est la chose indiscutable. Et c'est ça le juge dans la religion. Ce sont leurs règles. Alors que les textes de la religion, pour eux, c'est un sujet de van. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses claires. Ce ne sont pas des sujets de certitude. Les textes religieux, pour eux, ce sont des choses qui se discutent et qui ne sont pas claires. Et dont tu ne peux pas profiter une certitude et une science certaine. J'essaie de traduire un peu, c'est pas évident. Il dit en fait pour Al-Khalaf, les textes sont soit Vanniyatul Thubut ou Vanniyatul Dalala. Vanniyatul Thubut, c'est-à-dire que leur authenticité en elle-même n'est pas claire et est discutable. Et donc on les rejette. Et ça c'est ce qu'ils font avec, ou ce que certains d'entre eux font avec Ahadithul Ahad. Ils disent Ahadithul Ahad, pour une partie des Mutakallimi, ce n'est pas Thabit, ce n'est pas authentique. Et ils se contentent du mutawatir. Ça, c'est une partie d'entre eux qui fait cela. Donc, pour eux, une partie des hadiths, leur authenticité n'est pas claire, et donc il faut faire passer la raison avant. Et l'autre partie, c'est leur dalala qui n'est pas claire. Qu'est-ce que veut dire être dalala? C'est-à-dire, leur signification. Leur sens. Donc en vérité, pour eux, il n'y a rien de clair dans les textes de la religion. Soit c'est pas authentique, soit le sens il est discutable. Mais en aucun cas, le sens d'un hadith va être clair et il faut y croire. Donc pour eux, les textes sont vanniyatud dalala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un verset du Coran ou un hadith, quand il exprime quelque chose, ce n'est pas un yaqin, ce n'est pas une certitude, c'est un van. C'est-à-dire, ça ne te procure pas un savoir à 100%. Mais simplement à 50%, 75%. Je dis ça pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins. C'est pour ça que je donne l'image des pourcents. Donc comme c'est pas une certitude, donc c'est pas une preuve dans le sujet de Al-Aqidah et de la croyance en Allah. Donc il faut le rejeter. Voilà comment ils arrivent avec cette philosophie et ce raisonnement à rejeter les textes religieux. Et donc, comme ces hadiths, leur sens n'est pas une certitude, eh ben, il faut les détourner. Et pour les détourner, ils vont utiliser des règles et aussi al-majaz, c'est-à-dire la métaphore. Ils prétendent qu'il y a des métaphores dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ بَيِّنٌ لِكُلِّ مُتَجَرِّدٍ مُعَظِّمٍ لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالصَّحَابَةِ. Donc il dit, pour celui qui respecte et qui vénère le Coran, qui respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aime les sahaba, la différence elle est claire entre les deux voies. Les deux voies ne peuvent pas être la même. Ceux-là mettent la révélation avant l'esprit, ceux-là mettent l'esprit avant la révélation. Ceux-là acceptent tous les textes du Coran et du hadith authentique, ceux-là différencient entre eux les hadiths.
entre ce qu'on peut utiliser dans l'aqida, ce qu'on ne peut pas utiliser. Ceux-là, al-salaf, comprennent les textes tels qu'ils sont, selon la langue arabe. Ceux-là disent que les textes ne sont pas un sujet à certitude et que donc il faut les détourner de leur sens s'ils contredisent la raison. Comment les deux voies peuvent être la même? Comment ils peuvent prétendre être Ahl Sunnah avec cette contradiction entre les deux voies? Donc il dit, وَكَمَا ذَكَرْتُ فَإِنَّهُمْ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِمْ يُقَرِّرُونَ أَنَّ هُنَاكَ مَذْهَبًا لِلسَّلَفِ وَمَذْهَبًا لِلْخَلَفِ وَهَذَا دَلِيلُ الْإِقْرَارِ بِالْفَرْقِ. Il dit, et eux-mêmes dans leur livre, ils affirment qu'il y a un madhab des salafs et un madhab des khalafs. Ça, c'est eux qui le disent. Ils disent, il y a la voie des salafs et il y a la voie des khalafs. Donc eux-mêmes affirment qu'il y a une différence entre eux et les salafs. ثم وبلا حياء يقررون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. Et ensuite, sans pudeur, une fois qu'ils ont dit qu'il y a la voie des salaf et la voie des khalaf, ils disent, écoutez bien ce qu'ils disent, مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. Ils disent la voie des salaf, donc il y a une différence, il y a deux voies, il y a la voie des salaf et la voie des khalaf. La voie des salaf, elle est plus sûre, aslam. Mais la voie des khalaf, elle est a'lam wa ahkam. Elle est plus savante et plus sage. Vous imaginez, ça veut dire que les hommes qui sont venus après les trois générations, leur voie, elle était plus savante que la voie des sahaba. Rien que cette parole, on n'a pas besoin de la discuter. Normalement, toute personne qui a compris l'islam, il entend cette parole, il se sauve. Comment la voie de ceux qui sont venus après les années 500 peut être meilleure et plus savante que ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont vécu avec lui et qui ont pris de lui et de sa bouche la religion dans tous ses domaines. Voilà ce qu'ils disent. وَهَذَا تَأْكِيدٌ وَإِمْعَانٌ فِي تَقْرِيرِ الْفَرْقِ وَالْإِخْتِلَافِ وَلَكِنِ الْعَجَبُ الْعُجَابِ أَنَّهُمْ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ يَقُولُونَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ هُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ils disent donc eux-mêmes affirment une différence entre eux et les anciens. Mais ensuite, ils disent ce qui est étonnant, ce qui est choquant, c'est qu'après avoir établi cette différence, ils disent « Ahl Sunnah, c'est l'Asha'ira ». L'Asha'ira sont Ahl Sunnah. Comment ? On dit que c'est différent et après on dit qu'on fait partie d'Ahl Sunnah. Donc ça, c'est une très grande contradiction. Et le fait d'affirmer ces deux voies, c'est eux-mêmes qui l'affirment dans leur livre. Écoutez bien. « Ja'a fi jawharati at-tawhid wa kullu nasrin awhama at-tashbiha » أوله أو فوض ورم تنزيها. Dans جوهرة التوحيد, donc c'est un poème qui est étudié dans l'aqida al-ash'ariya. À notre époque, plus ou moins, tout bon ash'ari étudie جوهرة التوحيد. Qu'est-ce qu'il dit dans جوهرة التوحيد? Donc la perle du tawhid, et c'est plutôt la perte du tawhid. Il dit وكل نصر أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. Écoutez bien. Tout texte, c'est-à-dire tout verset ou tout hadith, qui te laisse comprendre le tashbih, c'est-à-dire la ressemblance entre Allah et sa créature, أوله, c'est-à-dire interprète-le. Donne-lui un autre sens. أو فوض. Ou alors, فوض, c'est-à-dire, entre guillemets, fais-le passer. Fawit, c'est-à-dire ne lui donne pas de sens, crois-le comme ça, warum tanziha, et vise par là tanzihan, c'est-à-dire le fait de scander la pureté d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit dans le vers? Tout texte qui te laisse comprendre une ressemblance entre Allah et sa créature, interprète-le ou fais-le passer en visant par là le fait de vénérer Allah, c'est-à-dire tanzih, c'est-à-dire le fait d'écarter d'Allah les manquements, etc. Et il est où le problème dans ce texte? Dès le début du vers. C'est quand il dit, et tout texte qui te fait comprendre la ressemblance. Ça veut dire que les versets du Coran et les hadiths laissent comprendre une ressemblance entre Allah et sa créature. Ça, c'est pour qui? C'est pour celui qui n'a pas compris les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour celui qui, quand il entend Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, il s'imagine un être humain quand il se met sur une chaise Et donc il s'imagine ça pour Allah. Et il dit donc je ne dois pas y croire. Donc il comprend des textes ce qu'on comprend d'un être humain. Et donc il dit ça on ne peut pas l'affirmer pour Allah. Donc c'est toi qui as mal compris dès le départ. C'est toi qui as comparé Allah à sa créature et qui as mal compris les textes. Sinon ni les textes du Coran ni les textes du Hadith, même si on les comprend dans leur sens apparent, avec leur sens et leur signification, n'implique une ressemblance entre Allah et sa créature. Donc le shir va expliquer ça.
قال البيجوري في حاشيته أوله أي احمله على خلاف الظاهر مع بيان المعنى المراد. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى بيان معنى المعنى المراد كما هو مذهب الخلف وهم من كانوا بعد الخمسمائة وقيل بعد القرون الثلاثة.
Écoutez, Al-Bayjouri, dont son commentaire est une référence dans l'Aqida al-Ash'ariya. Il a fait un commentaire de ce poème. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand il interprète la parole Awilhu, dans le poème il dit Awilhu, c'est-à-dire interprète ce texte. Il dit, c'est-à-dire, interprète-le de façon contraire à son aspect apparent. Donne-lui un autre sens que son sens apparent. En montrant quel est le sens qui est réellement voulu par ce texte. Donc ce qu'a voulu dire le poète, c'est interprète-le d'une interprétation détaillée, en montrant la signification qui est voulue, et ça c'est le madhab des khalaf. Ça c'est la voie des khalaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le texte, par exemple, Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, il faut pas que tu le comprennes comme ça. Il faut que tu lui donnes un autre sens. Donc ça veut dire déjà que tu crois qu'il a un autre sens que Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Mais cet autre sens, il faut que tu le détermines. Donc tu vas lui donner carrément un autre sens, tu vas lui donner une autre interprétation. Et ça c'est la voie des khalafs. Et il dit, et les khalafs sont ceux qui sont venus après l'année 500. Lui-même il dit ça, lui c'est un Ash'ari. Et il dit les khalafs sont ceux qui sont venus après les années 500. Et il dit, et certains ont dit, c'est ceux qui sont venus après les trois premiers siècles. Donc voilà le madhhab des khalaf.
وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف وهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
Ensuite, il interprète la parole dans le poème qui dit « awfawid ». Donc il a dit « awilhu awfawid ». Interprète-le ou fais-le passer. Écoutez bien. Donc interprète-le, on a expliqué ce qu'il a dit dans son interprétation. « Awfawid » ou fais-le passer. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire « fawid », c'est-à-dire après que tu l'aies interprété d'une interprétation générale, qui est le fait de détourner le texte de son aspect apparent, après ce ta'wil-là, cette interprétation-là, la signification qui est voulue, laisse-la. Fawid, c'est-à-dire ne rentre pas dedans, ne la détermine pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi donc la différence? Et il dit, ça c'est la voie des salafs, qui sont ceux qui étaient avant l'an 500, ou alors qui sont les trois premières générations, as-sahaba, tabi'in et atba' tabi'in. Donc pour lui, je dis bien pour lui, parce qu'on va voir que c'est une erreur grave. Comment il explique le madhab des salafs? Par le tafwid. C'est quoi quand il dit fawid? C'est-à-dire que un texte qui parle sur une qualité d'Allah, par exemple Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa. Premièrement, il faut comprendre qu'il veut pas dire ça. Ce qu'il dit le texte en apparence, il faut que tu crois que le texte ne veut pas dire ça. Ce qui ressort, le sens qu'on comprend du texte, c'est pas ça qui est voulu. Il faut que tu crois ça d'abord. Donc jusque là, c'est la même chose que les khalaf. La différence, elle est où donc, si vous avez compris? Je vais voir si vous avez compris. Voilà. Vous aurez quelqu'un d'autre qui me donne la réponse? Parce que il a écouté 100 cours sur l'aqida, donc. Hein? Bah, le comment, non. Parce que le comment, Ahl-Sunnah aussi, on dit que le... Non, ça c'est vrai ça. Non, moi je veux ce que lui a dit sur la voie des salafs. Il faut pas croire au côté apparent. On a dit, écoutez bien, les khalafs, là c'est le Bayjouri qui parle, c'est pas Abbas. C'est-à-dire, moi si je décris la voie des salafs, jamais je vais la décrire comme lui est en train de la décrire. Il dit, la voie des khalafs, c'est que le sens du texte, premièrement, on n'y croit pas. Le sens apparent du texte, on croit que le texte ne veut pas dire ça. Donc ça, la première étape, pour lui, la voie des salafs et la voie des khalafs, elle est d'accord sur ça. C'est-à-dire que pour lui, les salafs et les khalafs, tous ils ne croyaient pas à la main d'Allah, puisque c'est comme c'est écrit dans le Coran, à l'istiwa qui est écrit dans le Coran. Tous ces textes apparents, et le sens de ces textes, pour lui, bien pour lui, les salafs et les khalafs, tous ils n'y croyaient pas. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de donner une autre signification à ce texte. Puisque tu ne crois pas à ce qu'il dit. Il faut lui donner une autre interprétation. Donc pour lui, pour eux en fait, pour l'Asha'ira, les salafs s'arrêtaient là. Et ils ne déterminaient pas le sens du texte. Donc si par exemple, on prend je prends toujours cet exemple, Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa. Selon lui, les salafs, comment ils faisaient par rapport à ce verset? Ils disaient, ça ne veut pas dire premièrement que réellement Allah Istawa Al-Arsh. Première chose, ça ne veut pas dire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu A'lam, on s'arrête là. La vraie signification, on la laisse à Allah. C'est ça le tafwid. Pour lui, c'est ça la voie des sahaba. Et la voie des khalaf, c'est de ne pas croire à l'istiwa. Ça, c'est, jusqu'à maintenant, c'est pas la même chose. Mais de lui déterminer un sens. De dire, il veut pas dire ça, il veut dire telle chose. Vous avez compris? Donc la différence, elle est où? C'est que pour lui, je dis bien pour lui, les salafis s'arrêtaient sans donner de sens au texte. Donc en fait, pour lui, les sahaba, c'était des gens qui lisaient le Coran et ils ne comprenaient pas les versets. Ils disaient, voilà, le verset, il veut dire ça, il dit ça, je sais qu'il ne veut pas dire ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire en vrai, je ne sais pas. Donc pour eux, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, bal yadahu mabsutatan, ses deux mains sont ouvertes, les deux mains d'Allah. Wajhullah, tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est des paroles qui n'ont pas de sens particulier. Leur sens, on ne connaît pas. Donc, c'est comme si on lisait de l'hébreu ou de l'anglais ou une langue étrangère. Alors que les khalafs, eux, ils ont été plus malins, plus intelligents. Ils ont dit non, nous, on connaît le sens. On a cherché, on a réfléchi, on a trouvé que Ar-Rahman al-Arsh istawa, il veut dire istawla. Donc, écoutez bien la suite. Maintenant qu'on a compris comment eux conçoivent la voie des salafs et la voie des khalafs, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? وَطَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ لِمَا فِيهَا مِنْ مَزِيدِ الْإِضَاحِ وَالرَّدِّ عَلَى الْخُصُومِ وَهِيَ الْأَرْجَحِ وَلِذَا قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفِ. Il dit donc la voie des khalafs est plus savante et plus sage, parce qu'elle explique plus, elle va plus loin dans l'explication, et aussi parce qu'elle réplique mieux à ceux qui sont au al-khusum, c'est-à-dire ceux qui sont en face, aux ennemis, entre guillemets. Donc pour lui, la voix de al-Ghazali, al-Razi, al-Juwayni, etc., elle est plus intelligente que la voix d'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ça, c'est lui qui le dit, on ne l'a pas inventé. Ça, c'est la spécificité des savants d'Ahl-Sunnah. Quand on réplique sur une jama'a, on n'a pas besoin, chez Ahl-Sunnah wa Jama'a, d'inventer sur eux. Il suffit de prendre leurs propres paroles. C'est lui-même qui a dit que les khalafs et les salafs n'ont pas la même voix et que la voix des salafs, la voix des khalafs est plus intelligente. Et elle est plus savante. Donc ça, c'est lui qui le dit. Et il dit, c'est pour ça que, dans Jawharatul Tawhid, l'auteur l'a mise en premier. C'est parce que c'est cette voix-là la plus forte. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى ما قد يكون غير مراد له تعالى. Je vais la relire la phrase. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى. Il dit, et la voix des salafs est aslam, est plus sûre. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on ne se risque pas à déterminer une signification au texte qui pourrait ne pas être la bonne. Donc la voix des salafs, elle est plus sage, elle est plus sûre, et la voix des khalafs, elle est plus
savante. Ça, c'est chez eux. C'est comme ça qu'ils conçoivent la voie des salaf et la voie des khalaf.
فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى. انتهى كلامه. صفحة 52. Il dit donc, trois points de suspension, donc un peu plus tard, il a dit, toujours Al-Bayjouri, il dit, donc par rapport à tout ce que nous venons d'affirmer, il est clair que les salaf et les khalaf sont tous unanimes sur Al-Ta'wil Al-Ijmali, l'interprétation générale. C'est quoi cette interprétation générale? C'est le fait de refuser le sens du texte apparent. Donc sur ça, pour lui, les salaf et les khalaf sont tous d'accord. C'est où qu'ils divergent? Al-Ta'wil Al-Tafsili, l'interprétation détaillée, c'est-à-dire de donner un autre sens au texte et de déterminer ce sens. Donc il dit donc qu'ils sont tous d'accord sur le fait de ne pas comprendre les textes de leur côté apparent. Car tous détournent les textes qui laissent comprendre, dont le côté apparent laisse comprendre quelque chose qui est impossible pour Allah. Regardez comment il parle des textes. Donc c'est pour ça, il ne faut pas vous étonner, je fais une parenthèse, pour ceux d'entre vous, je ne veux pas dire, je fais exprès de ne pas dire, si vous allez sur tel site, parce qu'il ne faut pas aller sur tel site. Je vous dis, si vous êtes allé sur ces sites-là, sur les sites des Ash'ari en français, ou pour, même pourquoi pas pour certains d'entre vous sur l'arabe, ils ont déjà été confrontés à ces gens-là, vous allez voir qu'eux aussi parlent des salafs. Eux aussi parlent des salafs, et ils disent on respecte les salafs, et on est, nous aussi nous sommes des salafis, et on dit qu'on est Ahl Sunnah wal Jama'a, etc. Après il te dit Allah est partout, ou Allah n'a pas d'endroit, etc., etc. Donc comment? C'est-à-dire, la personne, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'un jeune qui a appris la Sunna, et à qui on a appris depuis le début que l'Asha'ira sont parmi les gens des passions, quand ils tombent sur leurs paroles et ils voient que eux disent, nous suivons les quatre imams, nous suivons les salafs, etc., il peut ne pas comprendre. Il peut se dire, c'est bizarre, eux aussi finalement ils suivent les salafs. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils comprennent la voie des salafs. Et en plus, ils ne la suivent pas vraiment, puisqu'en réalité, ils suivent la voie des khalafs. Mais ils vont dire qu'ils respectent la voie des salafs. Pourquoi donc ils respectent la voie des salafs? Alors que toi, quand tu dis que tu crois aux attributs d'Allah tels qu'ils sont dans le Coran et la Sunna, ils te disent que tu es un anthropomorphiste, un wahhabi, etc. Donc comment d'un côté ils disent qu'ils respectent les quatre imams et de l'autre côté ils te traitent de wahhabi? C'est parce que la façon dont ils ont compris la voie des quatre imams et des salafs n'est pas bonne. Ils ont une erreur de compréhension déjà dans la voie des salafs, ils ne l'ont pas comprise. Et ça, on le retrouve chez certaines grandes têtes, et quand je vous dis les grandes têtes, c'est vraiment les grandes têtes, donc les noms qui vous passent par l'esprit, c'est ceux-là, de certaines jama'at actuelles, comme la jama'at de l'Ikhwan al-Muslimi. Leurs grandes têtes, quand ils parlent de l'aqidah, ils disent « moi je suis sur l'aqidah des salafs ». Et pas celle des khalafs. Qu'est-ce qu'il veut dire aussi par celle des salafs? Il veut dire le tafwid. C'est-à-dire la aqida des salafs telle que les Asha'ira la pensent, croient qu'elle est la aqida des salafs, alors qu'elle n'est pas du tout. Donc, ils disent je suis sur la aqida des salafs, mais en vérité, ils sont sur la aqida du tafwid, qui consiste à ne pas croire au sens des textes, mais sans leur donner une autre interprétation. Donc, ce qui n'est pas la aqida des salafs. Et celui qui veut comprendre ça en détail, qu'il lise ou qu'il étudie Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a fait une introduction à cette fatwa où il a montré que Al-Khalaf et Ahlul Kalam, c'est-à-dire Al-Asha'ira, se sont trompés dans deux choses. Premièrement, ils n'ont pas compris quelle était la voie des salafs, et deuxièmement, le fait d'oser dire que la voix des khalafs était mieux que celle des salafs. Deux grandes catastrophes. On continue dans la lecture du livre. وهكذا وبلا حياء ولا خجل يرجحون مذهبهم الكلام الفلسفي على مذهب خير القرون على مذهب الجماعة والصحابة. Donc c'est ainsi, le cheikh commente maintenant, cheikh Falah, hafizahullah, il dit sans pudeur, sans que ça les embête, sans que ça les dérange, Et ils montrent, ils disent que leur madhab, qui est basé sur la philosophie et la spéculation, est meilleur que la voie des meilleurs siècles de cette communauté, qui sont les sahaba et les tabi'in. وهكذا, ça c'est la première chose. وهكذا يكذبون على الصحابة بأنهم أهل تأويل إجمالي بمعنى أنهم لا يقررون أي معنى لآيات الصفات التي وصفوها بأنها توهم التشبيه. Et aussi, ils mentent sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les compagnons font le ta'wil ijmali, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas aux significations des textes et des versets qui parlent des qualités d'Allah azza wa jalla, en disant que ces textes laissent comprendre la ressemblance entre Allah et ses créatures. Donc voilà leurs deux erreurs. Premièrement, ils n'ont pas compris, ils ont menti sur les sahaba, et deuxièmement, ils ont dit que la voix de ceux qui sont venus après est mieux que la voix des sahaba. Une des deux, elle suffit pour ne pas être de Ahl Sunnah wa Jama'ah. فاتهموا النصوص بأن فيها تشبيها للخالق بالمخلوق وتفتقر إلى تنزيه الباري وكأنهم أعلموا بالله وبما يليق به من نفسه تبارك وتعالى. Donc ils ont accusé les textes religieux de comporter du tashbih, c'est-à-dire de l'anthropomorphisme, de laisser comprendre de la ressemblance entre le Créateur et ses créatures, et de dire que ces textes ont besoin de tanzih, c'est-à-dire ils ont besoin que ensuite on purifie Allah Azza wa Jal de cette ressemblance. Donc on dirait, le shir dit, on dirait qu'ils connaissent mieux Allah que lui-même. Allah, c'est lui qui nous a parlé de lui. Et eux disent non, ça c'est pas possible. Donc vous connaissez mieux Allah qu'Allah se connaît lui-même, puisque vous dites que ces textes laissent comprendre de la ressemblance entre Allah et ses créatures. واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وصف ربه بما ظاهره التشبيه وعدم التنزيه وكأنهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله وبمدلولات الألفاظ والمعاني والأوصاف سبحانك هذا بهتان عظيم. Aussi, ils ont accusé le prophète صلى الله عليه وسلم en faisant ce raisonnement, et par la voie qu'ils ont empruntée, ils ont accusé le prophète صلى الله عليه وسلم de nous parler d'Allah en disant des choses qui, en apparence, laissent comprendre la ressemblance entre Allah et ses créatures, et dans laquelle il n'y a pas de vénération, tanzih, envers Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il connaissait mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la façon de parler d'Allah, et il connaissait mieux les paroles et la langue arabe et le sens des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque quand le prophète nous dit quelque chose à propos d'Allah, il dit non, ça ne peut pas vouloir dire ça. Donc ça veut dire soit que vous connaissez mieux Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas clair dans sa façon de s'exprimer, et qu'il s'exprimait d'une façon qui induit en erreur. Parce que le fait de dire, on fait une parenthèse aussi, c'est très intéressant ce que le shir dit ici, c'est très important. Le fait de dire que le côté apparent des textes n'est pas voulu, c'est pas ça qu'Allah a voulu dire. Donc quand Allah nous dit qu'il s'est élevé sur son trône, c'est pas ça que ça veut dire. Quand Allah nous dit qu'il a deux mains, c'est pas ça que ça veut dire. Quand Allah nous dit qu'il a un visage, c'est pas ça que ça veut dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah rit, c'est pas ça que ça veut dire. Quand le prophète dit qu'Allah est miséricordieux, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que pour eux, Allah ne peut pas avoir de rahma. Même la rahma, il la détourne de son sens. Quand Allah nous dit qu'il est satisfait des croyants, c'est pas ça que ça veut dire. Quand Allah nous dit qu'il aime les croyants, c'est pas ça que ça veut dire. Donc au final, on a envie de leur demander, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour nous montrer ou pour nous induire en erreur? Est-ce qu'il est venu pour nous parler d'Allah azza wa jal d'une façon compréhensible, pour qu'on soit éclairé et nous mettre sur le bon chemin? Ou est-ce qu'il est venu pour nous embrouiller encore plus? Parce que si on suit vos idées à vous, il est plutôt venu pour nous embrouiller encore plus. Quelqu'un qui veut venir de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah envoie aux êtres humains pour leur dire qu'il n'a que cette qualité. Écoutez bien ce que je vous dis. Imaginons, dans le raisonnement des Asha'ira, Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous parler d'Allah Azza wa Jal, pour nous transmettre son message. Or, Allah, pour eux, est partout. Ou alors, parce qu'eux-mêmes divergent. Leurs anciens, ils disaient Allah est partout. Ou plutôt même, Leur tout premier disait qu'Allah est au-dessus du trône. Ensuite, ils ont dit Allah est partout. Ensuite, ils ont dit Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Ni collé au monde, ni décollé du monde, ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde. Ce qu'ils disent les Ahbash, ce que vous entendez des Ahbash, c'est la Aqidah Ash'ariya. Les Ahbash, ce sont des Ash'ariya, tout simplement. C'est une nouvelle secte, mais dans leur croyance, ils n'ont rien de nouveau. Ce sont des Ash'ariya. Donc imaginez-vous qu'Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète pour nous expliquer qu'Allah est partout, ou qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni etc., il nous dit Allah est élevé au-dessus du trône. Ajib. Et après, ça serait à nous de comprendre qu'il n'a pas voulu dire ça. Parce qu'Aristote, il n'a pas dit ça. Subhanallah. Ajib, cette vision du dîn, elle est étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour nous dire, il veut nous faire connaître Allah. Or, Allah n'a pas de main chez eux, et il nous dit dans plein de textes qu'Allah a deux mains, que ses mains sont ouvertes, qu'Allah tend la main pour celui qui veut se repentir, etc. Ben, s'il avait voulu nous induire en erreur, il n'aurait pas pu mieux faire, dans leur compréhension. Selon les Ash'ariyya, Allah ne rit pas, puisque s'il rit, ça veut dire qu'il ressemble aux êtres humains. Donc Allah nous a envoyé un prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous parler d'Allah qui ne rit pas, et dans plein de textes le prophète nous dit Allah rit. Allah rit de deux hommes, hein, dont l'un tue l'autre et les deux rentrent au paradis, comme dit le hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a induit en erreur. Quand un sahabi demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayadhaku Rabbuna, est-ce que notre Seigneur rit? Et le prophète lui répond Na'am. Donc si Allah ne rit pas, qu'est-ce qu'il a fait ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il lui a montré la voie ou il l'a embrouillé? Il l'a embrouillé. Donc ça vous montre que leur doctrine, elle est complètement nulle. Elle implique plein de choses complètement ahurissantes. Ils ont voulu vénérer Allah, mais à la fin ils l'ont insulté en réalité. Et ils ont insulté sa religion, ils ont menti dessus. Donc il dit ensuite, ثم كذبوا على الصحابة أيضا واتهموهم بالتأويل وصرف الألفاظ عن ظاهرها صلى الله عليه ثم بعد هذا كله يزعمون أنهم هم الجماعة وكأنهم نسوا أنهم أرجحوا في مذهبهم وفي معرفة ما يليق بالله وما زالوا يرجحون مذهب الخلف على مذهب السلف فحري بهم أن لا يقولوا إنهم هم أهل السنة والجماعة لأن مذهب السنة والجماعة مرجوح عندهم وليصرحوا بأنهم أفضل من الصحابة في فهم وتطبيق نصوص الكتاب والسنة وأعقل وأعلم وأكثر حكمة كما هم يزعمون. Donc après tout ça, ils te disent ce nous أهل السنة والجماعة. عجيب. Avec toute cette contradiction qu'il y a entre la voie des salaf et la voie des khalaf, ils osent encore dire nous sommes de أهل السنة والجماعة, ou plutôt c'est nous أهل السنة والجماعة. Alors qu'ils disent que leur madhab et leur voix est meilleure que celle de la jama'a, qui sont les sahaba. Donc ils auraient plutôt dû dire qu'ils ne sont pas Ahl Sunnati wa Jama'a, et dire clairement que leur voix est meilleure que celle d'Ahl Sunnah wa Jama'a, et qu'ils ont plus de science, plus de sagesse et plus d'intelligence que les sahaba et que al-jama'a. Si vraiment ils allaient jusqu'au bout, ils diraient non, nous ne sommes pas Ahl Sunnah, nous sommes al-Ash'ariyya et on est encore mieux qu'Ahl Sunnah. Puisque même on dit que leur voix n'est pas celle des sahaba et de la jama'a. Donc soit Ahl Sunnah ont deux voix complètement différentes, ce qui est complètement impossible, soit dans leur compréhension, les sahaba sont Ahl Sunnah et eux sont Ahl Sunnah avec deux compréhensions et deux religions complètement différentes, ce qui est complètement impossible. Donc ils auraient plutôt dû dire, clairement et franchement, notre voix est mieux que celle de Al-Jama'a. Et ça c'est ce que disait Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, leur doctrine, elle est pire que l'Ash'ariyya dans l'égarement. Mais ce sont des rijal de Ahlul Bida'. Comme les savants disent, les Mu'tazila sont les hommes déjà de la spéculation. Et les Ash'ariyya sont leurs al-khunouf. C'est les moitié hommes, moitié femmes. Parce qu'ils disent pas clairement leurs choses. Ils essaient de faire un compromis. Alors que les Mu'tazila, dans leur égarement, étaient clairs. Ils disaient voilà, l'i'tizal, et voilà, notre doctrine n'est pas celle des Sahaba, etc., etc. Ils étaient clairs dans leur doctrine. Alors que l'Asha'ira ramène une bid'a énorme et disent nous sommes Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est pour ça que ce sont des Al-Khunush. Ce ne sont pas les hommes de Ahl Bid'a. Ce sont les femmes et les moitié hommes, moitié femmes de Ahl Bid'a. Ça, c'est une expression que les savants disaient sur l'Asha'ira pour exprimer le fait qu'ils ne sont pas clairs.
واذكر هنا مثالا استيضاحا واستبيانا لسبيل الأشاعرة المتكلمين المتنكبين عن الصراط والسنة والجماعة وهي مسألة طال حولها الجدل وربما غفل عنها جماهيرهم وعامتهم فلا يظنونها من مذهبهم لأنها عندهم من خصائص غلاة معتزلة معطلة إنها مسألة القول في القرآن وكلام الله.
شيخ متنا دي. Maintenant, je vais citer un exemple qui va nous éclaircir tout ça sur le chemin des Asha'ira qui ont contredit la Sunna et Al-Jama'a. Et c'est une question sur laquelle le débat a été très long. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de débats et de discussions autour de cette question. Et il dit une majorité des Asha'ira, et surtout le commun des Asha'ira, ne pense même pas, yarhamukallah, que cette question fait partie de leur madhhab. C'est-à-dire, eux-mêmes, l'Asha'ira, beaucoup d'entre eux, n'ont même pas conscience que cette doctrine dont on va parler fait partie de leur madhhab. Et ils pensent que c'est simplement le madhhab des Mu'tazila. Parce que les Asha'ira sont des ennemis, à la base, des Mu'tazila. Et pour eux, les Mu'tazila sont des Mubtadi'a, etc., etc., ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que quand on regarde, comme on l'avait dit dans le premier cours, l'évolution des Asha'ira, ils se sont rapprochés des Mu'tazila, et n'ont plus une très grande différence avec eux. En ce qui concerne les Sifats, bien sûr. Sinon, dans d'autres points, ils ont une différence avec eux. Donc, cette question, c'est la question du Coran. Et la question de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette question, Al-Asha'ira, leur parole est complètement contraire à la parole des Ahl-Sunnah. Et elle est pratiquement identique à celle des Mu'tazila. Alors que eux-mêmes déclarent innovateurs les Mu'tazila pour la question du Coran. Alors qu'au final, dans cette question, ils sont identiques. Mais une grande partie des Asha'ira n'ont pas conscience de ce point. Et c'est pour ça que je vous avais raconté l'histoire de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala. Quand Cheikh Falah, dont on lit le livre, a fini son magistère, il l'a invité dans son bureau, il l'a appelé, il lui a dit « Viens, j'ai un cadeau pour toi ». Et quand le cheikh est venu, il lui a donné Jawharat al-Tawhid, c'est-à-dire le livre dont on lisait les paroles. Un livre Ash'ari 100%. Donc, Cheikh Falah, il n'a pas compris, c'est pas ce cadeau. Et il lui a dit, c'est pour que tu comprennes, lis-le, et tu comprendras que les Asha'ira ne connaissent pas leur dogme. C'est-à-dire que eux-mêmes ne savent pas toutes les horreurs et toutes les énormités qu'il y a dans leur dogme. Car l'aqida ash'ariya ne fait que s'hériter plus ou moins de shir en élève. Mais les élèves n'ont pas forcément conscience, déjà le shir, de tout ce qu'il y a dans l'aqida ash'ariya. Donc la plupart des gens, comme je vous avais cité l'exemple la fois dernière, l'aqida ash'ariya, c'est l'aqida officielle dans la plupart des pays du monde musulman, dont le Maghreb, les pays du Maghreb. Donc c'est l'aqida officielle dans les universités, et, ou alors de la plupart des mouftis, etc., etc. Pas tous, mais la plupart. Alors que, si tu prends n'importe quelle personne au Maghreb, ou en Afrique de l'Ouest, et tu lui dis, ce qui est écrit là dans le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Pour moi, Allah, il a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire que t'es un kafir, etc., etc. Ben, ça, c'est l'aqida ash'ariya. Pour vous dire que, le commun des ash'ariya n'ont pas conscience de leur propre dogme. Et aussi, avant de passer à cet exemple, donc je vous mets en garde une deuxième fois, comme je l'avais fait dans le premier cours, contre des gens qui en apparence sont Ahl Sunnah wa Jama'a. Et quand ils parlent, ils disent Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, etc., etc. Et quand on leur parle de Aqidah, ils disent l'Aqidah, elle est en trois sortes. Il y en a trois. Et ce genre de personnes, et je les ai connus, ils font des cours de Aqidah en classe, dans certains instituts. Ça, vous comprenez de plus en plus. Dans certains instituts. Et ils disent, voilà, cours de Aqidah. Introduction, La aqida d'Ahlus Sunna est composée de trois aqidas différentes. La aqida ash'ariya, la aqida maturidiya. Al-maturidiya, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquement comme l'ash'ariya, mais avec quelques différences. Et ils sont plus répandus en Asie. L'Asie, ils sont maturidiya. Pour que vous compreniez plus ou moins. Maturidiya, c'est pratiquement pareil que l'ash'ariya. Et la aqida des salafs. Mais moi, j'ai choisi l'aqida des salafs, je vais vous apprendre l'aqida des salafs. Donc, selon lui, une personne, donc deux personnes peuvent être de Ahlus Sunnah wa Jama'a, sachant que lui dit, Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône, celui qui dit Allah est partout est un kafir, comme disaient les salafs, et lui dit, Allah Azza wa Jal n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni collé au monde, ni décollé du monde, ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, celui qui dit le contraire et qu'Allah est au-dessus du trône est un kafir. Et les deux sont Ahlus Sunnah. Magnifique. Ajib. C'est ajib. Deux personnes qui vont se kaffar, l'une et l'autre, elles sont Ahlus Sunnah wa Jama'a. Masha'Allah. Voilà comment ils trompent les jeunes. Mais ça, pourquoi ils font ça? Parce que c'est leur Jama'a, leur affiliation à leur Jama'a, leur impose de faire ça. Ils peuvent pas dire clairement, comme on le fait nous, alhamdoulilah, que les Asha'ira sont des gens des passions, sont des innovateurs, sont une firqa, etc. Pourquoi? Parce que dans sa mosquée, dans son institut, dans sa jama'a, il est en relation et en coopération avec l'Asha'ira, avec des gens qui sont Asha'ira. Donc comment il va faire? Donc il trouve un compromis, il fait du tamir, il fait tout fondre, et voilà, il crée un petit compromis, du laxisme, et il dit voilà, le sunna c'est tout ça. Alors qu'il sait pertinemment, s'il a lu, il y a deux solutions. Soit il n'a pas lu les livres d'Ibn Taymiyyah, donc il ne faut pas qu'il parle d'Ibn Taymiyyah. Et il n'a pas lu les livres d'Ibn Uthaymiyyah, donc il ne faut pas qu'il parle d'Ibn Uthaymiyyah. Et il ne faut pas qu'il fasse cette vitrine. Parce que sachez que Al-Albani, Ibn Baz, Uthaymiyyah, pour ces gens-là, c'est devenu une vitrine. C'est pour ça que tu les vois sur la Khutbah Jumu'ah, disent les ulama comme le Cheikh Al-Albani, Ibn Baz, l'Uthaymin, et après il cite qui vous savez. Subhanallah. C'est une vitrine. Parce qu'ils savent que maintenant ces chouyukhs-là ont du succès. Donc pour t'attirer, il va citer ces chouyukhs-là. L'Albani, l'Allama, l'Imam, l'Albani. D'accord, l'Albani c'est un imam. Viens voir ce qu'il a dit sur le Kawthari, viens voir ce qu'il dit sur. Ouais, mais non, ça c'est le khilaf, ça c'est pas grave, c'est entre les ulama, etc. Kalam, batil, les paroles n'importe quoi. Donc ça c'est une vitrine. Donc soit il n'a pas lu ce qu'a dit Ibn Taymiyyah et ce qu'a dit Ibn Uthaymin, donc il ne faut pas qu'il parle d'Ibn Uthaymin et d'Ibn Taymiyyah pour attirer les gens. Soit il l'a lu, c'est encore pire. Parce que s'il a lu ce qu'a dit Ibn Taymiyyah et ce qu'a dit Ibn Uthaymin, et à la fin il te dit l'Asha'ira sur l'Ahl Sunnah wa Jama'a, c'est que c'est un kazzab. C'est un grand menteur qui est en train de nous tromper et il est prêt à nous cautionner une innovation pour qu'on le suive et pour qu'on rentre dans son groupe et dans sa jama'a et qu'on ne crée pas de division dans leur petite hiérarchie mesquine. Voilà. C'est ça la réalité de certains du'as, surtout en région lilloise. Donc faites attention. Et à la limite, je vous dis ça à vous. Et je sais que vous, ceux qui sont assis devant, ils savent. Mais dites-le plutôt aux autres qui se font avoir par ce genre de personnes. Si seulement ils étaient là pour entendre ce qu'on a à leur dire. Parce qu'ils se font avoir. Imaginez-vous, la personne, elle peut se dire, bah, aujourd'hui, j'ai une aqida salafia, je crois qu'Allah est au-dessus du trône, mais mon cher Foulen, il m'a dit, je peux changer d'aqida. Donc, demain, je vais croire qu'Allah est partout. Subhanallah. Bientôt, ils vont nous dire, on peut être musulman, et puis demain, on peut être chrétien. Vous me direz, certains d'entre eux, il l'a dit. Donc, le musulman a le droit de changer de religion. Il l'a dit. Donc, on va continuer à lire. En fait, les paroles de Cheikh Falah, elles nous appellent à parler de ces choses-là. Et à mettre à plat, et à faire la lumière, sur ce genre de choses. Maintenant, on va parler, peut-être ça sera un troisième cours, sur la question du Coran. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Est-ce que le Coran est une créature d'Allah? Etc., etc. Sur cette question, on va voir l'océan qu'il y a entre Ahl Sunnah et Al-Asha'ira. Et la fraternité et la proximité qu'il y a entre Al-Asha'ira et les Mu'tazila. En résumé, ça fait combien de temps, donc, une heure. En résumé, quelle est la croyance de Ahl Sunnah wa Jama'a? c'est que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a parlé, il a dit donc ce qui est dans le Coran, et Jibril l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous croyons que ce qui est entre de la Fatiha jusqu'à Ula'adu bi Rabbi Nes, tout ça c'est la parole d'Allah, tout simplement. Alors que les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Al-Ma'moun, quand il a fait la fitna avec l'imam Ahmed, etc. C'était quoi leur doctrine? Ils ont dit Al-Qur'an ou Makhlouq. Al-Qur'an, laïsa kalam Allah. Cache. Sans faire de détour. Ils ont dit le Coran n'est pas la parole d'Allah. Le Coran est une création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah pour eux ne parle pas. Si on dit qu'Allah parle, ça veut dire qu'il ressemble aux êtres humains. Donc Allah a créé des sons, des voix, et ces voix ont dit ce qu'il y a dans le Coran. Ou alors, c'est Jibril qui a dit le Coran, etc. Selon plusieurs versions, parce que même ils se battent dans ça. Donc le Coran est une création. Allah a créé des sons. Ces sons, Jibril les a entendus et il les a révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en aucun cas, c'est la parole d'Allah. Donc de là est venue cette guerre entre eux, Ahl Sunnah, avec à leur tête l'imam Ahmed, et Al-Mu'tazila. Et l'histoire, elle est connue dans la dynastie des Abbasides, ce qui s'est passé avec l'imam Ahmed. Al-Asha'ira, qu'est-ce qui s'est passé? Al-Asha'ira sont des gens de la spéculation, ce ne sont pas des gens du hadith. Leur religion, elle n'est pas basée sur le hadith, elle est basée sur la cogite, hein, sur l'intellect, sur la raison, soi-disant intellect. Le vrai intellect et la vraie intelligence, c'est celle qui vient correspondre au Coran et à la Sunna. Eux, ils ont choisi l'intellect d'Aristote et des Grecs. Donc, leur religion est basée sur l'intellect et sur le raisonnement. Donc, eux, quand ils sont apparus, se sont dressés en tant que Ahl Sunna, en tant qu'ennemis des Mu'tazila. Donc, ils sont venus pour contredire les Mu'tazila. Mais le problème, c'est qu'en contredisant les Mu'tazila, ils ne pouvaient pas dire non plus comme Ahl Sunna, parce que ça contredit leur usul, ça contredit leur base. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont trouvé une parole intermédiaire. Et en vérité, quand on dit intermédiaire, elle n'est pas à 50-50 entre Ahl Sunna et les Mu'tazila. Elle est plutôt très loin d'Ahl Sunna et toute proche des Mu'tazila. Ils ont dit, le Coran, Allah ne parle pas, première chose. Allah ne parle pas. Mais Allah pense. C'est ça la différence entre les Mu'tazila et les Asha'ira. Comment on dit penser en arabe? Ils appellent ça hadithun nas. C'est-à-dire Allah a des paroles intérieures, des pensées. Et ces pensées, elles sont un bloc. En fait, ils ne disent pas un bloc. Moi, je vous explique avec des mots français pour qu'on essaie de comprendre leurs idées. C'est-à-dire ces pensées qui sont en Allah, c'est un tout. C'est un tout qui ne change pas. Mais Allah ne parle pas. Donc au final, est-ce qu'ils disent qu'Allah parle ou ne parle pas? Allah ne parle pas. Donc ils sont d'accord avec qui au final? Avec les Mu'tazila. Parce qu'Ahl Sunna disent qu'Allah parle. Subhanahu wa ta'ala, comme il le veut. Donc ils ont été d'accord avec les Mu'tazila pour dire qu'Allah ne parle pas. Parce que pour eux, dire qu'Allah parle, ça veut dire qu'Allah il est comme l'homme. Donc ils ne peuvent pas le dire. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? L'être humain il parle, Allah il parle, et ils sont différents, tout simplement. Il n'y a pas deux, c'est pas la même chose, tout simplement. Bref, comme on dit l'être humain vit et Allah vit, sans pour autant qu'ils se ressemblent. Eh bien, c'est la même chose. L'être humain il parle, Allah parle, et sans pour autant qu'ils se soient la même chose et qu'ils se ressemblent. Donc, ils ont dit Allah ne parle pas. Mais Allah a hadithun nafs, des pensées. Ces pensées, Allah les a exprimées par des sons qu'il a créés. Et ces sons, c'est le Coran. Ou alors, écoutez bien, c'est Jibril qui a exprimé par des paroles, des alphas, c'est-à-dire des paroles, ce que Allah pensait. Ces paroles, c'est ça le Coran. Ou alors c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc au final, le Coran, c'est la parole de qui? De Jibril ou de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors c'est des voix qu'Allah a créées comme ça dans l'espace. Donc au final, est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah ou pas pour eux? Ben non, pas du tout. Mais jamais ils vont dire le Coran n'est pas la parole d'Allah. Pourquoi à votre avis? Parce qu'en faisant ça, ils vont se dévoiler. ils vont se dévoiler. Ils ont dit qu'ils étaient les ennemis des Mu'tazila. On peut pas venir dire après, le Coran n'est pas la parole d'Allah, ça revient à être avec eux. Donc ils ne disent pas clairement. Ils disent non, le Coran est la parole d'Allah. Et ça, c'est une façon de tromper les gens. Ils disent, regardez, nous, on est Ahl-Sunnah, on n'est pas les Mu'tazila. Nous, on dit le Coran est la parole d'Allah. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils appellent? Soit ils veulent dire le Coran, c'est en fait ce qu'Allah pense. Et ce qu'il y a entre eux, les deux couvertures du Mus'haf, c'est pas ça le Coran. Ça, c'est l'expression du Coran. C'est l'expression, hikaya, de ce qu'Allah pense. Et le Coran, c'est ce qu'Allah a pensé. Donc ce n'est pas une parole, c'est la pensée d'Allah. Et ces mots qui sont entre les deux couvertures des Mus'haf, on peut les appeler paroles d'Allah métaphoriquement. Mais en réalité, ce n'est pas les paroles d'Allah. En réalité, ce n'est que le récit et l'expression des pensées d'Allah. Donc au final, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Ils le disent, mais ils ne le pensent pas. Ils le disent, mais pour eux, c'est une métaphore. Ou alors, ils disent par là ce qu'Allah a pensé. Donc, en faisant ça, ils ont contredit le Coran, ils ont contredit le Hadith, ils ont contredit l'Ijma. Et c'est dommage qu'on n'a pas plus de doros possible pour je vous lirai les paroles des salafs sur ça. Parce que quelqu'un, il peut rentrer dans la mosquée puis dire, ouais, mais c'est bien beau ce que tu racontes. Nous, on n'était pas là il y a 1000 ans. Ben, alhamdoulilah, les paroles des imams, elles existent. Que ce soit les sahaba, les tabi'in, où tous disent bien que le Coran est la parole d'Allah. Allah parle que les termes du Coran, c'est bien Allah qui les a dit, etc. Tout ça, ils l'ont bien dit clairement. Donc, on revient à ce que je disais. Qu'au final, pour eux, le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais simplement l'expression des pensées d'Allah. Donc, ils ont contredit le Coran, le Hadith, l'unanimité des Sahaba, des Salaf et de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et ils ont contredit aussi la langue arabe. Parce que dans la langue arabe, ce qu'on pense, ça ne s'appelle pas une parole. Ajib, hein? Ce qu'on pense, dans la langue arabe, ça ne s'appelle pas kalam. Kalam, c'est ce qui sort de la bouche. Pour l'être humain, bien sûr. Pour Allah, on ne dit pas ce qui sort de la bouche. Parce qu'Allah n'a pas parlé de bouche, en parlant de lui-même. C'est sa parole, tout simplement. C'est ce que on prononce. Donc, ils ont contredit même la langue arabe. Parce que dans la langue arabe, la pensée, on ne peut pas appeler ça les paroles. Et ils ont même utilisé un vers de poème dans ça, et on verra après par la suite ce vers de poème, comme quoi en fait il est même pas utilisable. Donc on fera ça dans un autre cours encore, parce qu'aujourd'hui finalement on a fait que 4 pages, il y a 30 pages dans le livre, mais le livre en fait il est trop bien, parce que chaque phrase du shir, ça nous permet de parler, d'expliquer un peu, tellement le shir en peu de phrases il a vraiment exprimé beaucoup de choses, et ça c'est l'héritage qu'il a eu. Donc de ses études, et notamment de sa compagnie de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, à qui je recommande les audios pour tous les arabophones. Tous les arabophones, je vous recommande fortement d'écouter les audios pour celui qui veut comprendre la religion, comprendre la croyance de Mohamed Aman Al-Jami, qui en plus parle très clairement et très simplement en arabe. Voilà, donc on finira ça dans un autre séminaire, inshallah ta'ala, ou un autre cours. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه